La maternité peut être vécue comme un véritable tourbillon dans la vie d'une femme. La grossesse est un moment unique. C'est aussi le moment où l'on se demande comment concilier vie personnelle et vie professionnelle. Le manque d'informations sur la maternité et le postpartum en entreprise est grand. Je m'appelle Pauline. Dans le podcast Mininou, je donne la parole à des mères, des pères et des experts dans leur domaine pour qu'ils partagent avec nous leurs expériences, pour en tirer des clés concrètes pour vivre sereinement sa grossesse, son postpartum et sa reprise du travail. Après avoir annoncé ta grossesse à ton employeur, tu dois peut-être te demander comment faire pour bien la vivre au travail. Dans ce deuxième podcast Mininou, je vais aborder avec mes invités cette thématique. Comment mieux vivre sa grossesse au travail grâce à des adaptations légales et des astuces très concrètes à mettre en place dans ton quotidien. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Hervé, responsable des ressources humaines, Anne-Lise, maman d'une petite fille qui attend son deuxième enfant, et Émilie, qui est ostéopathe, spécialisée dans la grossesse. Maintenant, je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute.
Bonjour Hervé, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Mininou.
Bonjour.
Pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, dans quel type d'entreprise tu travailles et de qui est composée ta famille ?
Hervé Rousseau, donc je suis responsable ressources humaines pour le groupe Thomas Plan. Alors groupe Thomas Plan, c'est quoi ? On est producteur de plans maraîchers aujourd'hui pour les professionnels à très grande échelle. On produit environ 300 millions de plans par an et qu'on livre sur la France entière et un petit peu à l'international maintenant. On a deux sites de production, un en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et un autre dans les Bouches-du-Rhône, sur Tarascon plus exactement. Et on a un effectif moyen, donc en équivalent temps plein, à 250 salariés aujourd'hui. Je suis marié depuis maintenant... j'ai une vie maritale, on va dire, depuis 20 ans bientôt. Et j'ai deux enfants, un enfant le plus grand de 11 ans, un petit garçon, Nathéo, et une petite fille de 6 ans, Romane.
Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très peu évoqué quand on est enceinte, en fait, à savoir les aménagements légaux du poste suite à l'annonce d'une grossesse à son employeur et notamment à son responsable ressources humaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous rappeler pourquoi il est important de prévenir de sa grossesse aussi sont responsables de ressources humaines. On l'oublie souvent, on interroge souvent le manager direct, mais le RH a aussi un rôle clé lors d'une grossesse.
Alors, en effet, il est important de communiquer sur son état de grossesse lorsque l'on est enceinte. Moi, j'ai pour l'habitude de dire en fait que être enceinte ou avoir une grossesse n'est pas une maladie. Au contraire, c'est souvent en plus quelque chose qui est voulu dans la plupart du temps. Donc il est important de le partager, c'est un événement quand même qui va amener vers des jours plutôt sympathiques et heureux. Et donc il est important de prévenir le supérieur hiérarchique, ça c'est vrai, et également le responsable des ressources humaines, ou le RH, ou le DRH, en fonction des entreprises dans lesquelles on peut se trouver, même parfois l'employeur pour les petites entreprises, tout simplement pour pouvoir gérer administrativement parlant derrière toutes les modalités que peut obtenir la salariée sur des aménagements de poste ou sur des autorisations d'absence ou autre. Voilà, en mettant l'employeur au courant le plus tôt possible, voilà, ça va lui permettra d'aménager si besoin le poste de travail et pouvoir allier grossesse et travail dans les meilleures conditions possibles.
Voilà. Oui, parce que vous, en tant que responsable ressources humaines, vous avez aussi pas mal de paperasse, on va dire, qu'on ne voit pas, nous, en tant que salariés, à faire suite à l'annonce d'une grossesse. Et ça, c'est important aussi que ça soit pris en compte par les ressources humaines le plus tôt, afin d'être dans tout ce qui est législation.
Exactement. On a des déclarations à faire auprès de la sécurité sociale, de la CPM pour le régime général ou d'autres régimes en fonction de l'entreprise dans laquelle on se trouve aussi. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Il y a aussi des deadlines à respecter, donc c'est important pour tout le monde, pour la salariée, mais également pour l'entreprise, d'être au courant le plus tôt possible, et ça permet de travailler sereinement d'un côté et de l'autre.
Merci de cette précision, parce que je pense que c'est important. On ne connaît pas toutes, en fait, l'étendue de votre panel d'action au niveau RH, et c'est bien de remettre aussi votre métier au centre quand on a une grossesse.
On est là pour accompagner les salariés, positivement parlant, et les aider dans leur démarche. parce que on est dans un pays avec beaucoup de lois, de règles, et en effet, nous, c'est notre rôle justement de les faire respecter et de pouvoir, je l'ai dit, hein, accompagner les salariés dans leurs démarches administratives. Parce qu'on en a tous, on a la partie salariale, on a des démarches à effectuer, mais également nous, en tant que patron et entreprise, on doit en faire aussi. Donc on a besoin d'être au courant le plus tôt possible.
Par rapport à au congé maternité, alors quels sont les délais légaux, combien de temps ça dure? Et à partir de quel moment la salariée peut partir en congé maternité? Donc là, on est un peu plus loin dans la grossesse.
Oui, on est un peu plus loin. Alors la salariée qui est enceinte doit donc prévenir le plus tôt possible l'employeur, ça c'est sûr. De par l'absence congé maternité, déjà, bon, on va parler du délai est plus important en fonction du nombre d'enfants déjà. Si c'est une première grossesse, une deuxième grossesse, si c'est des grossesses multiples. Voilà, ça varie entre 16 semaines au total pour un enfant, et ça peut aller jusqu'à 34 semaines pour des jumeaux, avec ce qu'on peut appeler un congé maternité prénatal et postnatal, donc prénatal avant la naissance, postnatal après la naissance. Donc par exemple, si on prend pour le premier et le deuxième enfant, on est à 6 semaines en prénatal, et donc sur un congé de 16 semaines au total. Un troisième enfant et plus, on est sur du 8 semaines en prénatal et un congé pouvant aller jusqu'à 26 semaines en tout. Voilà. Et pour des jumeaux, on passe à 12 semaines en prénatal et 34 semaines au total. Après, ça varie encore, ça augmente pour des triplés, des quadruplés et autres. Bon, on va pas tous les passer parce que moi, je dirais que quand il y a ces questions-là, il faut, encore une fois, l'échange avec le RH permettra de définir les durées plus facilement, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Le congé prénatal, il faut savoir qu'il peut être réduit à 3 semaines avant la naissance. Et du coup, ça décalera d'autant le congé de maternité. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de durée de congé postnatal. Tout à l'heure, j'ai parlé juste avant de durée totale de semaines de congé maternité.
Oui, parce que en fait, si la femme et l'employeur sont OK, la future maman peut, si elle se sent toujours apte à travailler entre guillemets jusqu'au bout et ainsi garder le temps de congé prénatal pour le basculer sur
le postnatal après la naissance. Après la naissance, exactement. Alors par contre, il y a quelques démarches quand même à faire pour ça. Il faut l'avis déjà d'un professionnel de santé, il faut l'accord de l'employeur aussi. Et faut faire aussi la demande à la caisse d'assurance maladie. Donc c'est pas juste un échange oral et verbal entre le salarié et l'employeur en disant je veux décaler mon congé postnatal de 3 semaines. Voilà, il y a quand même quelques démarches à effectuer pour que ce soit bien pris en compte. Et il faut les faire surtout pour pas se retrouver coincé au niveau des indemnités journalières derrière qui sont versées à la femme, à la dame, à la salariée qui est en congé maternité.
Très bien, c'est un bon point parce que c'est vrai que on pourrait penser que c'est facile en se disant bon bah c'est bon, j'ai le temps, je peux encore travailler, j'en parle à mon manager, à mon RH, mais non, en fait il faut vraiment, c'est toute une démarche quand même à faire en amont.
Non, et puis encore une fois, si on sort des règles administratives, l'échange est important. On est voilà, pour vivre une grossesse, la meilleure des grossesses possibles, il faut échanger avec le médecin, mais également avec l'employeur. Voilà, c'est tout un. On est presque 3 parties finalement à rentrer dans cette démarche-là. Le médecin du travail, il faut aussi ne pas l'oublier parce que c'est lui qui connaît le métier et il est important de savoir qu'on peut déclencher des visites médicales avec le médecin du travail avant le congé maternité justement pour pouvoir adapter, on y viendra après, mais adapter aussi le poste de travail au moment du congé maternité, pendant le congé maternité.
C'est très intéressant, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours au médecin du travail.
Non.
Et pour faire la transition, donc, quels sont les droits des femmes enceintes quand elles sont sur leur poste?
Alors, quels sont les droits? Il y en a plusieurs. On peut aménager. Alors, il y a la règle, il y a les conventions collectives, il y a la loi et les conventions collectives. Donc, moi, je connais pas toutes les conventions collectives. La loi, on va se baser plutôt sur le légal. Alors, d'abord, il n'y a pas de réduction d'horaire prévue par la loi. Par contre, certaines conventions collectives peuvent le prévoir. Cependant, encore une fois, si l'échange est réalisé avec l'employeur, en fonction du poste de travail, il est possible quand même, même si ce n'est pas défini dans la convention collective, Si ce n'est pas défini dans la loi, il n'y a pas de raison que l'employeur ne puisse pas aménager le poste de travail s'il est possible. Mais ça, ce sera aussi en concertation avec l'employeur et le supérieur hiérarchique. C'est une évidence. Donc, réduction du temps de travail n'est pas obligatoire. Il faut le savoir. Le médecin du travail, il faut prévenir, en fait, si vous voulez, si vous avez des difficultés sur le poste, c'est pour ça que je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout précédemment. À ce moment-là, on déclenche une visite avec le médecin du travail et lui pourra définir des restrictions de poste à l'employeur. Et à ce moment-là, l'employeur sera dans l'obligation de s'y restreindre. Il faut savoir que pendant la maternité, vous avez des, vous les femmes qui êtes enceintes, vous avez des examens qui sont obligatoires, ils sont au nombre de 7. Nous, en tant qu'employeur, on est dans l'obligation de vous libérer pour ces examens obligatoires et votre absence est rémunérée pour pouvoir aller faire ces examens. Donc, c'est au nombre de 7.
Et on doit prévenir l'employeur du jour de l'examen, je suppose.
Exactement, comme toute absence, de toute façon. En général, il faut prévenir l'employeur. Il faut prévenir l'employeur, il faut prévenir justement le service, je dirais peut-être pas forcément le responsable RH, mais au moins le service ressources humaines, sachant que c'est une absence qui doit être rémunérée, qui est considérée comme du travail effectif, donc rémunérée. Il faut que le service paye ou RH soit au courant que cette absence-là ne doit pas vous être décomptée de votre temps de travail. On peut en prévoir aussi en fonction du poste de travail de la personne un aménagement de poste ou une affectation différente de poste de travail, par exemple pour les emplois pénibles ou à risque. Alors, quand je pense à risque, moi, si c'est chez moi, ça va être sur des produits phyto, des produits chimiques ou poste à risque, peut-être les personnes non sédentaires qui sont au volant commercial, qui on sait pertinemment que être sur la route toute la journée n'est pas l'idéal pour une personne enceinte. Donc, on peut imaginer des affectations différentes de poste pendant la grossesse. La grossesse et donc le travail. Ce changement de poste ne doit pas entraîner de baisse de salaire. C'est-à-dire que votre salaire que vous avez pour le poste que vous avez actuellement doit être identique si jamais on vous change de poste. On ne peut pas le diminuer.
Et la salariée est obligée d'accepter ce changement de poste ? Et si elle refuse, quelles sont les conséquences ?
Alors, obligée d'accepter, oui et non. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas accepter. Cependant, on sera obligé d'arriver sur une suspension du contrat de travail, arrêt de travail, qui sera pris en charge en tant qu'arrêt maladie, hein, donc pas en tant qu'arrêt maternité. Donc, on sera sur une absence maladie, comme on pourrait avoir pour autre maladie classiquement. Une fois que le congé maternité, donc en fonction du nombre d'enfants, on l'a vu tout à l'heure, débute, on passe en absence congé maternité avec des indemnités journalières maternité, donc qui sont plus élevées que l'IJ maladie.
Sur ce, si la femme voit avec son médecin pour se mettre en congé maladie, l'employeur ne peut pas à ce moment-là se dire je la licencie. On est d'accord que la loi protège la femme.
Non, ça il faut bien le signifier, le licenciement pendant une grossesse est tout simplement impossible. Et alors c'est pour ça aussi qu'il faut prévenir le plus tôt possible son employeur de l'état de grossesse du salarié. Si l'employeur n'est pas au courant, n'a pas été mis au courant, on ne peut pas savoir forcément que la personne est enceinte. Alors il y a en plus physiquement, il y a des personnes où ça se voit plus que d'autres. Enfin voilà, on n'est pas censé tout savoir. Là-dessus, rien que pour ça, pour la protection du licenciement, il est important parce que l'état de santé va peut-être modifier votre façon de travailler, que si on est, enfin, le supérieur hiérarchique ou l'employeur ne verra peut-être pas ça de bonne manière et derrière pourrait entraîner des difficultés contractuelles. Donc, pour éviter ce licenciement, encore une fois, il faut prévenir le plus tôt possible l'employeur de votre état de santé. Je vais quand même revenir sur quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le congé maternité doit quand même être demandé par écrit à l'employeur. Ça, faut surtout pas l'oublier aussi. Toujours est-il dans le but de pouvoir, lors d'un éventuel conflit par la suite, de pouvoir justifier les choses. Et il faut remettre un certificat médical que vous avez avec l'assurance maladie de votre état de grossesse et ce qui permettra de bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, donc qui vous protégera de notamment de ce qu'on vient de dire auparavant, et qui vous assurera derrière une prise en charge de votre situation, notamment de grossesse. S'il y a des absences, on l'a dit, pour les 7 absences autorisées, si, encore une fois, si l'employeur n'est pas au courant, bah, si vous êtes absent, c'est sujet à conflit, la prise en charge de l'arrêt de travail, enfin voilà, tout ça, c'est il faut remettre ce certificat médical, il faut le remettre à l'employeur également.
Dans les aménagements de poste, donc tu l'as bien dit, ça dépend des conventions collectives, et dans la loi, il n'y a pas de spécifiquement des choses à part avec les matières dangereuses ou des postes où il y a besoin de beaucoup voyager ou de choses comme ça qui nécessiteraient des aménagements particuliers. Pour des personnes qui seraient en usine, à la chaîne, ou même au contraire qui seraient dans un bureau toute la journée, là, c'est vraiment au manager hiérarchique, au médecin du travail et au RH de voir comment adapter le poste s'il y a besoin.
C'est ça, exactement. En fait, c'est la visite médicale auprès du médecin du travail qui fera les choses. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus tout à l'heure. Il faut s'aider de ces personnes-là. C'est eux qui connaissent l'entreprise, c'est eux qui connaissent les postes, et ils ont aussi cette vision médicale que nous, on n'a pas en tant qu'employeur, et qui vont pouvoir définir des restrictions. Nous, en tant qu'RH, je suis personne pour dire que de rester assis toute la journée pour une femme enceinte, ce n'est pas bon. Je sais pas, en fait. Je peux le deviner éventuellement, mais voilà, je suis pas médecin. Le médecin du travail est médecin, par définition. Il accompagne également les salariés et l'entreprise sur les postes de travail. Et donc, c'est lui qui va définir les restrictions s'il y en a, si on doit éventuellement changer de poste au vu des restrictions. Et donc, c'est ce qui va engendrer derrière toutes les démarches que l'on doit réaliser pour faire un aménagement de poste, pardon, ou pas.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, si la grossesse se déroule bien, pas de souci, entre guillemets. Si on voit qu'on a des difficultés par rapport à notre poste, on contacte la médecine du travail, on a un entretien avec le médecin et c'est lui qui dira comment aménager le poste. Et à ce moment-là, est-ce que c'est à la salariée de montrer le papier délivré par le médecin à son manager pour changer quelques petites choses ou d'optimiser son poste, ou c'est le médecin qui se met en contact avec vous, les RH directement, et le manager pour mettre en place les optimisations ou les aménagements du poste?
Alors, deux choses. Je dirais la première chose, si on veut le faire, il faut passer par l'employeur pour prendre rendez-vous avec le médecin du travail. On gagnera du temps. Ça permettra aussi d'avoir une visite de pouvoir caler une visite sur le temps de travail, puisque ces visites auprès du médecin du travail doivent être réalisées sur le temps de travail. Donc, ça permettra aussi de générer la planification de ce rendez-vous correctement et avec un échange avec la salariée et l'employeur et le supérieur hiérarchique. Et suite à cette visite médicale, la salariée repart généralement avec un avis d'aptitude signé par ce médecin, éventuellement des restrictions à tenir sur le poste sur le poste de travail. Cet avis d'aptitude, il est transmis à l'employeur également. Cependant, il peut mettre plus ou moins de temps à être transmis. Donc, j'invite les personnes qui ont passé une visite médicale à transmettre cet avis d'aptitude à l'employeur. De toute façon, il l'aura. Tôt ou tard, il l'aura. Si on peut gagner du temps, gagnons du temps et venez au bureau ou échangez par mail cet avis d'aptitude que vous avez obtenu à la suite de votre visite.
Bon, ce que je retiens, c'est qu'il faut de la transparence, expliquer en fait voilà, qu'on n'est pas bien, qu'on voit avec donc ses ressources humaines, pour caler un rendez-vous avec la médecine du travail. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours et c'est vrai que la médecine du travail, je pense qu'on s'en sert pas assez, enfin c'est pas servir, c'est pas nous.
Alors, non, mais...
Ça ne fait pas assez sur eux, sur elle.
Mais si, mais je suis d'accord là-dessus, on s'en sert pas assez, ça c'est clair. Aujourd'hui, on va parler à ce moment-là de la visite médicale de reprise. Celle-ci, elle est obligatoire et elle est à faire dans les 8 jours suite à la reprise, donc elle est à prévoir aussi. Donc ça va nécessiter aussi un échange entre la salariée donc qui est en congé maternité et l'employeur.
Déjà avant son retour.
Voilà, c'est ça. Avant de revenir, faut continuer à échanger de toute façon avec l'employeur parce que cette visite médicale, elle est importante. Ça va permettre de voir comment se situe la personne physiquement, mais aussi psychologiquement avant de reprendre le travail. Et caler une visite chez le médecin du travail en 8 jours, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'on puisse avoir, même si on a normalement sur les courriers de demande de congé maternité, on a la date de retour fixée suffisamment tôt. Il peut y avoir parfois des variables qui rentrent en compte. Et du coup, pouvoir décaler cette date de reprise. Et donc, plus tôt l'employeur là-dessus est mis au courant, plus tôt il aura le temps d'organiser cet échange qui est obligatoire avec le médecin du travail. Et donc, je le répète, c'est dans les 8 jours suite à la reprise de la salariée sur son poste. Alors là, c'est l'employeur qui déclenche. C'est pour ça que, vu que c'est l'employeur qui déclenche, pour ça je dis, même le congé maternité, on l'a vu tout à l'heure, il peut varier en poste natal. Ça peut aller de 10 à quasiment plus de 20 semaines. Donc du coup, c'est long, puisque la personne, la salariée, elle est absente. L'entreprise, elle continue de tourner. Hein, donc parfois, l'employeur aussi, il n'a pas toutes les dates de reprise ou autre dans la tête. Donc il faut continuer à échanger. Et ça permettra d'organiser cette visite qui est importante pour faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un point sur l'état de santé de la personne après une grossesse. Après un congé maternité, l'état de santé, c'est aussi bien physique que mental, psychologique. Et c'est pour ça que c'est important d'échanger, encore une fois, avec le médecin du travail. Ça permettra aussi de voir le médecin du travail. Il aura peut-être eu des infos aussi sur le poste de travail, sur l'évolution de l'entreprise, je sais pas, et d'avoir une discussion ouverte avec une personne qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, ça peut faire parfois du bien avant de reprendre le travail.
Et par rapport à cette reprise du travail, je sais qu'il y a un entretien qui est obligatoire aussi, qui est l'entretien de retour.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est cet entretien de retour et quel est son but et avec qui le faire ?
Alors, c'est l'entretien professionnel. En fait, il est réalisé normalement tous les 2 ans, déjà minimum, dans un état, on va dire, si on peut le dire comme ça, classique, normal de... Un salarié, alors pour une personne qui a été en congé maternité, il a réalisé au retour également. Alors, il est réalisé, ça va dépendre des structures, il sera fait soit par le supérieur hiérarchique, soit par le RH ou par le directeur, tout simplement en fonction des structures. En fait, il va servir à évoquer les perspectives d'évolution professionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise aussi, Pendant l'absence maternité, elle continue de travailler, elle avance, et c'est normal. Et du coup, il peut y avoir eu des évolutions en interne de métier, de poste, de vision. Enfin voilà, il peut y avoir peut-être même un changement de supérieur hiérarchique entre-temps. Elle a pu être restructurée, donc cet entretien professionnel, il va permettre d'échanger avec l'entreprise. Et d'évoquer les projets professionnels de la salariée, voir éventuellement les souhaits qu'elle pourrait avoir en matière de formation, d'accompagnement au poste de travail pour une reprise plus sereine et faire gagner en valeur ajoutée à l'entreprise et à la salariée.
Oui, parce qu'on est d'accord que quand on part en congé maternité, normalement, on revient sur un poste
identique.
Équivalent. Carrément identique. Okay.
C'est ça. Poste équivalent. On peut pas être déclassé. Le salaire, s'il y a eu des évolutions pour le même poste, des évolutions salariales, le salaire doit être aussi également, doit évoluer en même temps. Donc, il y a reprise de poste équivalente à ce qui était auparavant, avec évolution s'il y a eu évolution. Il peut y avoir, pendant le congé maternité, ce qu'on peut appeler un congé pathologique, une grossesse pathologique. Et ça, c'est pour le coup, c'est important d'en parler parce que il peut y avoir amalgame sur ce nom de grossesse pathologique ou d'absence pathologique. Il faut faire très attention. La grossesse pathologique, elle est bien définie et il y a bien des durées de définies aussi là-dessus. Il y a 2 types de congés pathologiques. Il y a encore une fois le prénatal et le postnatal. Le prénatal est de 14 jours maximum. C'est pas forcément 14 jours consécutifs. Il peut être séparé en 2 fois une semaine, par exemple. Il peut être en tout début de grossesse, comme il peut être en toute fin de grossesse avant le congé maternité. Et ça, c'est le gynécologue ou le médecin qui suit la personne enceinte qui doit définir cette absence pathologique. il est différent d'un arrêt maladie. L'arrêt pathologique, alors je suis pas médecin, mais ça résulte de l'état de grossesse, l'arrêt pathologique. C'est un arrêt de travail qui résulte de l'état de grossesse. Alors c'est un peu, je ne rentrerai pas dans les explications, parce que j'ai dit, je suis pas médecin, mais c'est pas, il peut pas dépasser 14 jours quand on est avant la naissance, de toute façon. Et ces 14 jours ne sont pas forcément consécutifs, ça peut être en deux fois une semaine. Et le postnatal, lui, peut aller jusqu'à 4 semaines et sera par contre 4 semaines consécutives à la suite du congé maternité. Et souvent, en fait, celui-là, il résulte plutôt de l'état de santé suite à l'accouchement de la maman ou de l'état de santé du bébé. Alors, c'est vrai que souvent, la grossesse pathologique en prénatal est souvent mise 15 jours avant le congé maternité. C'est régulièrement ce qui est fait. Mais il faut savoir qu'il peut être mis une semaine en tout début ou en plein milieu et puis revenir au travail un petit peu parce que peut-être le temps d'avoir eu fait des aménagements de poste pour l'entreprise ou autre. Voilà, c'est pas forcément à prendre avant, en amont du et collé au congé maternité. Il est interdit de travailler pendant le congé maternité. Ça, on peut le dire aussi. Si l'employeur vous le demande, vous pouvez le refuser. Vous aurez pas de problème derrière. Mais l'employeur ne vous le demandera pas, je pense. Enfin, normalement, parce que si vous travaillez, vous allez tout simplement perdre vos IJ. Vos indemnités journalières de maternité. Ce versement-là, il est soumis à l'interruption de l'activité, donc voilà, il faut, vous ne pouvez pas cumuler travail plus congé maternité, c'est impossible. Normalement, vous pouvez avoir une activité, on va dire, parallèle, tout en gardant une période d'inactivité de 8 semaines minimum pendant ce congé maternité.
Alors, une activité parallèle, c'est-à-dire par rapport à l'entreprise ou par exemple si je veux me lancer dans la couture et vendre des gigoteuses parce que je suis une future maman, je peux faire ça.
Oui, normalement oui, si, mais il faut quand même avoir une période d'inactivité de 8 semaines minimum. Le congé maternité en fait, mais je rentrerai pas après plus loin dans le débat parce que c'est long et dur à expliquer et puis c'est des situations qui sont quand même très très rares. Mais le congé maternité peut être réduit, sur exception, mais il doit faire au minimum 8 semaines, tout confondu. Donc quand on parlait tout à l'heure de 16 semaines au minimum pour un premier ou un deuxième enfant, on peut imaginer le réduire à 8 semaines, si vraiment la personne se trouve aussi suffisamment en forme ou autre pour pouvoir faire son métier, mais il est obligatoirement de 8 semaines. Ça, c'est le code du travail qui le définit. Après, quelles sont les démarches pour y parvenir? Moi, ça va être encore des échanges avec le médecin du travail, des autorisations médicales, des demandes à l'assurance maladie et autres. Enfin, c'est très rare, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais il y a une durée minimum à respecter pour le congé maternité. Et après aussi, on peut parler peut-être de la fin du congé maternité, de la reprise, on en a parlé rapidement tout à l'heure sur le fait qu'il fallait faire une visite de reprise, il fallait aussi également faire un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique ou avec l'employeur, ça c'était obligatoire. Il peut y avoir aussi, en fonction de l'état et des volontés de chacun, on peut éventuellement faire des reprises, notamment à temps partiel, qui permettraient de prolonger le congé maternité et de faire une reprise également en douceur. Ou alors on peut aussi parler du congé parental d'éducation. Alors attention, le congé parental, enfin dans un cas ou dans l'autre, la partie qui n'est pas travaillée est non rémunérée. Le congé parental d'éducation, c'est un an maximum, renouvelable deux fois, mais ne pouvant pas dépasser les 3 ans du premier enfant. Voilà. Mais c'est quelque chose qui existe et que l'employeur ne peut pas refuser. Ça, c'est à prendre en compte. Si la personne a besoin, ressent le besoin ou a envie d'aller plus loin dans l'éducation, on va dire dans le choix d'éducation d'enfant, c'est quelque chose qui est possible à la fin du congé maternité. Et il faudra bien évidemment en informer l'employeur, c'est obligatoire encore une fois, et d'échanger sur la durée souhaitée. Mais l'employeur ne peut pas le refuser, ce congé parental.
Il y a aussi un délai légal, il faut le demander 2 mois avant la date prévue. C'est oui. Ça du congé.
Du congé,
et
ouais.
Après, l'employeur a aussi un mot à dire sur, enfin, c'est pas le pourcentage, mais c'est sur comment c'est alloué dans la semaine.
le congé parental, c'est une absence. On peut avoir une absence à 100% qui va, donc j'aurais dit, de 1 an maximum, renouvelable 2 fois. Donc, c'est-à-dire qu'on ne part pas pour 3 ans systématiquement, on part pour 1 année ou moins. Hein, ça peut être moins, ça peut être 6 mois si on le souhaite. C'est 1 an maximum. Et il peut être renouvelé, jusqu'aux 3 ans du premier enfant. Voilà. Donc là, on est en absence. Il n'y a pas de rémunération possible. Et puis voilà. Et derrière, il y aura un retour encore. On repousse le retour à l'entreprise et les démarches d'entretien professionnel et autres ne changent pas. Après, j'ai parlé du reprise à temps partiel. Le reprise à temps partiel, c'est forcément suite à un échange, une demande et un échange avec l'employeur, parce qu'il va falloir organiser le temps de travail. Et cette reprise à temps, je ne parle pas de mi-temps, c'est bien pour ça que je n'ai pas dit mi-temps, je parle de temps partiel, parce que ça peut être 50% du temps de travail, c'est vrai. Je veux dire, voilà, par exemple, tous les matins une présence et tous les après-midi une absence. Ça peut aussi être 60%, 80%, c'est-à-dire 4 jours par semaine, par exemple, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, qui permet de garder l'enfant le mercredi quand il n'y a pas de moyen de solution de garde, on va dire, type école ou crèche. Mais ça, c'est avec une demande à l'employeur également et un échange en bonne intelligence pour améliorer, pour faire le temps de travail adéquat aux volontés de chacun, c'est-à-dire de la salariée, mais également de l'employeur. Savoir que si, en fonction des personnes, certaines mamans décident d'allaiter l'enfant, il faut quand même aussi le savoir, malgré la reprise de travail, la maman qui allait a l'autorisation de s'absenter 1 heure par jour pour allaiter l'enfant. Alors ça peut soit en 1 heure, soit en 2 fois 30 minutes pour les mamans qui allaiteraient 2 fois par jour. Enfin après, voilà, c'est des absences autorisées, non rémunérées, mais c'est une absence autorisée.
Donc c'est sur ton temps de travail, tu vas tirer ton lait quelque part. Et
voilà, c'est une absence qui est autorisée, qui est justifiée et que l'employeur ne peut pas refuser. Donc je vais dire une bêtise, quelqu'un qui habite à 500 mètres de son entreprise peut très bien rentrer chez elle à 11h, de 11h à midi par exemple, pour pouvoir allaiter son enfant. Ou tirer le lait pour pouvoir le transmettre ce lait-là à l'enfant plus tard. C'est une autorisation qu'il faut prendre en considération aussi dans le choix, parfois, dans ce choix-là qui est de « je décide ou non d'allaiter mon enfant ». Peut-être que ça mettrait un frein à certaines mamans. C'est une obligation pour l'employeur de libérer la maman pour ça.
Et me vient une question, est-ce que l'employeur est obligé de mettre à disposition de la maman une salle pour tirer son lait ou un espace ? Ou non, ça, c'est vraiment à chaque entreprise, après, d'adapter en fonction...
C'est une absence, bon, ça, là-dessus, autorisée, non rémunérée, qui doit être prévue avec l'employeur, évidemment aussi, qu'il soit mis au courant. Cette période d'allaitement est réduite à 20 minutes si l'employeur met à disposition des salariés un local dédié à l'allaitement. Et ça peut aussi se justifier sur le fait que s'il n'y a pas de salle, la personne est peut-être obligée de rentrer chez elle. Et à ce moment-là, 1 heure, c'est pas trop. Par contre, c'est vrai que s'il y a une salle, dans l'enceinte de l'entreprise, il y a déjà le temps de trajet entre domicile et travail qui ne doit pas être pris en compte, quoi. Donc, ce local-là doit respecter des normes strictes en matière de santé et de sécurité au travail, bien évidemment. Et l'entreprise qui emploie plus de 100 salariés pourrait être mise en demeure d'installer dans son établissement un tel local.
D'accord. Donc, c'est pas encore dans la loi, vous êtes obligé. Non. Mais
c'est fortement conseillé et en fonction, je pense, de... Après, je pense que ça dépend aussi de l'effectif de l'entreprise. C'est-à-dire que si on a une personne qui est en congé maternité tous les 3 ou 4 ans, malgré qu'on ait 300 salariés, on ne sera pas sanctionné de ne pas avoir mis ce local en place. Par contre, si on est une entreprise, je vais dire une bêtise, avec 250 femmes et des congés maternité, des absences régulières de par l'effectif de l'entreprise, peut-être que là, oui, s'il n'y a pas de logement, l'entreprise pourrait être embêtée. Donc non, mais s'il y a la possibilité, c'est bien de le faire. On l'a vu parce que le temps déjà pour l'entreprise est réduit par 3, hein, donc c'est pas négligeable non plus. Après, il faut avoir les moyens, la possibilité de le faire aussi.
Donc, on parle beaucoup des femmes enceintes, des futures mamans. Si le papa souhaite prendre un congé parental, comment ça se passe? Parce que là, je me dis, donc c'est beaucoup de, normalement, des femmes, des futures mamans et des femmes enceintes qui nous écoutent. Mais si leur mari souhaite aussi passer ce cap, quelles sont les démarches? Est-ce que c'est les mêmes démarches que pour les mamans?
Oui, au niveau du congé parental, oui. Au niveau du, alors il y a deux choses. Il y a le, déjà en tant que futur papa, et on a le droit au congé paternité. On parle, on a parlé tout à l'heure de congé maternité. On a le droit de congé paternité. Et je pense que les gens en ont entendu parler parce qu'il a évolué dernièrement. Alors le congé paternité, c'est 29 jours d'absence. C'est 4 jours à prendre à la suite de la naissance.
Obligatoire à la suite.
Voilà, ces 4 jours-là incompressibles à la suite de la naissance. Et après, c'est 25 jours qui peuvent être échelonnés. Alors, c'est 25 jours calendaires. Donc, faire bien prendre ça en compte. Donc, calendaire du lundi au dimanche. Hein. Il y a 6 mois pour prendre ce congé paternité. Il peut être échelonné sur la durée. Donc, on n'est pas obligé de prendre 25 jours calendaires à suivre, quoi. Et ça, il faut faire la demande écrite, pareil, à l'employeur, au minimum un mois avant la date du début de congé paternité souhaité.
Et autre question, on parlait des 7 rendez-vous obligatoires pour la future maman. Est-ce que le papa peut aussi dire à son employeur, bah là j'ai l'échographie de ma femme, je souhaiterais y aller, ou là il n'y a pas de mesure particulière selon la loi pour que le papa accompagne, le futur papa accompagne la future maman pour les examens?
C'est une très bonne question. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de possibilité. Cependant, moi, enfin, si je prends mon cas en tant que RH, moi, si j'ai, on va dire, quelqu'un qui souhaiterait aller à l'échographie des 5 mois, par exemple, qui est importante, ou la première qui est aussi importante, moi, je sais que j'avais fait le nécessaire pour pouvoir y assister. Encore une fois, il faut échanger avec son employeur et on trouve les moyens de pouvoir. Ça reste, je le redis, hein, que j'ai dit au tout début, le fait, l'état d'être enceinte, c'est pas une maladie, quoi. C'est plutôt un événement positif qu'on a le droit de partager. Et éventuellement, si on le partage, ça permettra de faciliter les démarches et du coup, notamment, ça permettra peut-être à l'employeur d'accepter une absence de 2 heures ou 3 heures d'une demi-journée pour pouvoir accompagner sa femme qui est enceinte, hein, tout simplement, et de partager cet événement qui est encore une fois un heureux événement. Donc si l'employeur est au courant, il n'y a pas de raison derrière que ça bloque. Alors, il pourrait y avoir des raisons peut-être matérielles ou productives qui puissent empêcher ce que la personne ayant peut-être un poste important, qui pourrait empêcher l'absence. Mais voilà, il faut, si on ne demande pas, si on n'échange pas, on n'aura pas. Et la meilleure façon de faire les choses, de toute façon, c'est de communiquer, qu'on soit la maman, la future maman ou le futur papa.
Je pense que c'est un beau mot de la fin, parce que vraiment la communication et puis la transparence entre le salarié et la direction, les RH, c'est ce qu'il y a de primordial pour que tout se passe bien de tous les côtés, en fait.
Exactement.
Merci beaucoup, Hervé, de nous avoir éclairé sur ce qui était possible de demander quand on est enceinte, que ce soit pour la maman, mais aussi la future maman, mais aussi pour le futur papa ou le papa. Ça permet de mieux comprendre en fait quelles sont nos possibilités. Je suis sûre que ça permettra d'aider certaines futures mamans à mieux vivre leur grossesse en entreprise, en ayant des clés, comme aller voir son médecin du travail. Je pense que c'est quelque chose qu'on pense pas du tout.
Enfin voilà, c'est important de communiquer, d'échanger avec les personnes qui sont au courant des choses, de comment ça se passe et comment ça doit se passer. Et l'employeur et le RH en fait partie, il doit être au courant de ces règles-là. Et il a en tout cas accès facilement aussi à ces définitions de règles. Donc pour ça, il faut communiquer et ça facilite forcément les choses derrière.
Bonjour Annelise, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast Mini Nous. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille?
Bonjour Pauline, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, ça me fait très plaisir. Alors je m'appelle Annelise, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis chef de projet en agroalimentaire, dans un gros groupe agroalimentaire. Je viens de région parisienne, je suis arrivée à Rennes il y a maintenant 10 ans et je continue à travailler dans ce domaine depuis de nombreuses années.
Qui compose ta famille ?
Alors, tout d'abord mon conjoint, qui lui a déjà 3 enfants, et puis ensemble on a une petite fille qui aura 3 ans en septembre, et puis je suis enceinte de notre deuxième, enceinte de 6 mois.
Comment s'est passée cette première grossesse au travail ?
Alors, la première grossesse a démarré quand je faisais les travaux avec mon conjoint dans notre nouvelle maison. On posait du parquet tous les soirs après le travail. C'était épuisant et j'étais très fatiguée. J'habitais assez loin à l'époque de mon lieu de travail. J'avais à peu près 1h10 pour y aller. Et puis, quand je revenais, ça pouvait aller jusqu'à 1h30 le vendredi soir, voire plus. Donc, c'était un rythme assez intense. Les 3 premiers mois étaient difficiles. Parfois, je faisais des pauses sur la route, sur mon trajet retour pour faire une petite sieste. Puis ensuite, on a pu déménager dans la maison dans laquelle qu'on rénovait, qui était un peu plus proche de mon lieu de travail. Et donc, finalement, j'avais plus que 50-55 minutes de route. Ce D'accord. qui était quand même beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, c'était assez soutenu au démarrage. Et puis ensuite, j'ai accouché en début septembre et vers le début du mois de mai, j'ai commencé à avoir pas mal de contractions. Donc, j'en ai tout de suite parlé à ma responsable parce que ma gynécologue m'avait dit que ce que j'avais, c'était des contractions, parce que je ne savais pas que c'était des contractions.
C'était un premier.
Voilà.
Découvrir.
Je pensais que je sentais la tête très fortement et que ça faisait une masse dure, mais c'était une grosse contraction. Elle m'a dit, oulala, si ça continue comme ça, je vous arrête. Donc, moi, je suis allée voir tout de suite ma responsable. Je lui ai dit, pour ne rien te cacher, en fait, j'ai beaucoup de contractions et apparemment, je vais me faire arrêter si ça continue. Donc, elle est revenue me voir dans l'après-midi. Donc, je lui ai dit ça le matin. L'après-midi, elle est revenue me voir. Et elle m'a dit, écoute, Annelise, on va aménager ton poste. Et puis, on va te mettre en télétravail ou sur un site, parce que c'est un groupe qui a plusieurs sites. Moi, j'étais sur un site assez loin, quand même. Il y a d'autres sites qui étaient plus proches de mon lieu, de mon domicile. Donc, elle m'a proposé 2 jours de télétravail par semaine et des déplacements aussi sur des sites pour travailler qui étaient plus proches de mon domicile.
Donc, ça, tout de suite, le jour même.
Oui.
Donc, tant mieux. Oui. Et ça s'est bien passé. Donc là, tu étais à peu près à 5 mois
oui,
de ça. Grossesse. Et ça s'est bien passé jusqu'à la fin
Du coup, j'ai pu continuer à travailler jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé mon congé maternité avec mes congés pato juste avant parce que c'était vraiment... Ça tirait, mais je n'ai pas eu de congé ou d'arrêt spécifique avant puisque ça allait. Et finalement, quand ça n'allait pas, je faisais 2-3 jours de télétravail et puis je me déplaçais sur site beaucoup moins souvent et... Et c'était vraiment bien. J'ai eu une adaptation de mon emploi du temps qui était pas mal, qui m'a permis de continuer de travailler. Et puis, comme avait dit ma responsable, c'était du donnant-donnant, c'est-à-dire que finalement, elle me donnait une souplesse qui, à l'époque, n'était pas courante dans l'entreprise. C'était avant le Covid. Le travail n'existait pas, le télétravail n'existait pas. Et donc, elle m'a donné une grande souplesse parce que moi, du coup, ça m'a permis de continuer de travailler plus longtemps.
Et quand tu étais au bureau, il y avait des choses spécifiques que tu avais mis en place. Par exemple, dans ton travail, tu travaillais en laboratoire parfois. Est-ce qu'il y avait des produits toxiques et il fallait aménager certains postes ou non ? Tu n'as pas eu d'aménagement spécifique ?
J'aurais pu avoir si besoin. Il y avait certains produits que je ne voulais plus toucher, mais je mettais des gants. Je faisais ça vraiment très rarement. On travaille en binôme aussi avec des techniciens qui vont plus faire le côté manipulation. Donc, j'étais un peu plus choyée dans l'équipe. On s'occupait un peu plus de porter mes sacs. Je portais plus de sacs lourds, plus de sacs d'ingrédients, ces choses-là. Tout ça, j'en portais plus. Et puis, pendant les essais qu'on appelle des essais pilotes, où on se retrouve dans un hall pilote avec du matériel, j'étais la majorité du temps assise, surtout vers la fin. Alors que bon, normalement, c'est pas trop comme ça que ça se passe, mais j'avais un petit tabouret à roulettes. Ça me permettait de suivre l'essai tout en restant assise, de ne pas être trop fatiguée. Mais sinon, j'aurais pas pu.
Et tu me disais, hors podcast, que dans les locaux de ton entreprise, il y avait des ballons de grossesse.
Alors, à l'époque, il n'y en avait pas. Et ensuite, j'ai changé dans la même entreprise, j'ai changé d'équipe. Et donc, je suis sur un autre site qui est maintenant plus proche de mon domicile aussi. Et depuis, je vais dire... environ peut-être l'été, ouais, l'été dernier, ça fait depuis un moment quand même, ils ont mis en place pour le bien-être des salariés, notamment des ballons, comme des gros ballons de grossesse qu'on peut régler à notre hauteur pour travailler à son bureau. Donc on en a un par service ou un pour 2 services et puis on se les prête.
Oui, donc les mentalités ont changé depuis 1 ou 2 ans. Et si on continue sur cette première grossesse, donc toi, les aménagements sont faits, tu pars... pour ton congé pathologique. Et puis après, tu fais ta fin de grossesse chez toi. Et le retour, est-ce que tu as souhaité allaiter ?
Oui. Alors, ça a été compliqué.
D'accord.
Ça a été un allaitement compliqué à mettre en place et très douloureux, finalement, qui s'est terminé en tire-allaitement. Et donc, j'ai tire-allaité quasiment pendant 7 mois, Valentine.
Et comment tu faisais au travail, alors ?
Alors, je venais avec ma grosse machine, ma boîte de grosses machines tous les jours, tous mes contenants. Et donc, j'avais la chance d'avoir, on m'a prêté les clés du bureau du médecin du travail qui n'était pas tout le temps là. C'était un bureau où il y avait et le médecin et l'infirmier qui se relayent. Donc, j'avais les clés en permanence et comme ça, je pouvais rentrer pour tirer mon lait finalement quand je voulais. Donc, au début, c'était bien 3 fois par jour. Et puis, toujours un frigo à disposition, jamais une remarque ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours très bien passé et j'étais complètement autonome et sans avoir de compte à rendre.
Et tu avais l'aval de ta hiérarchie ?
Oui, on m'a tout de suite donné une clé pour que je sois vraiment indépendante et que je n'ai pas à chaque fois aller demander une clé d'un bureau à chaque moment. Parce que oui,
c'est un peu délicat.
C'est un peu délicat. On m'a tout de suite vraiment mis en place des conditions pour que ça se passe bien.
Donc, première grossesse avec des aménagements, toi, tu n'avais pas d'autres, on va dire, pathologies ou maux de grossesse spécifiques pendant cette première grossesse. Comment se passe la seconde, alors, actuellement ?
Alors, la seconde se passe bien pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça. La fatigue, encore. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y ait déjà une petite à la maison qui pompe beaucoup d'énergie. Comme on n'a pas de travaux en cours, ça compense. finalement, c'est différemment fait puisque le télétravail est un peu plus rentré dans les mœurs. Donc, on avait toutes les périodes Covid et les périodes de restrictions. Puis, en fait, maintenant, on est arrivé un jour par semaine pour tout le monde dans notre équipe. Et là, depuis une ou deux semaines, j'ai possibilité, quand mon travail le permet, de faire 2 jours de télétravail, ce qui permet de ne pas faire de route du tout. Et en fait, ça fatigue beaucoup moins.
Oui, parce que tu as toujours beaucoup de route.
Ah, j'ai une demi-heure de route maintenant.
D'accord, c'est un peu moins.
Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup moins qu'avant.
Et est-ce que là, il y a des aménagements spécifiques ?
On ne m'a pas parlé d'aménagements spécifiques à ma grossesse. Par contre, c'est moi qui, quand je me suis sentie fatiguée, ai demandé à faire un jour de plus de télétravail. Ça a tout de suite été accepté. Enfin, c'est plus si je vais aller demander si ça ne va pas ou si je peux rester à la maison tel jour. Ou si j'ai une semaine, par exemple, d'essai dans un hall pilote pendant 3 ou 4 jours dans la semaine où j'étais debout. Bon, j'étais assez fatiguée ensuite. J'ai demandé si je pouvais rester télétravailler pendant 2 jours. Ça m'a été tout de suite accepté. On ne m'a pas parlé d'aménagement autre spécifique, on va dire.
Tu me parlais de monter dans des tours pour des essais ou des choses comme ça. Donc, tu ne fais plus certaines tâches quand même ?
Non, si je ne vais pas, je ne vais pas forcément faire comme avant. Ou autant, où je puisse me préserver sur certains points. C'est un aménagement plutôt tacite, c'est-à-dire qu'on ne me reprochera pas de ne pas être allée visiter ou monter 6 ou 7 étages par les escaliers si j'ai estimé que non, j'en étais pas capable ou que j'étais trop fatiguée pour les faire. C'est quelque chose, on va même pas m'en parler en fait. Je vais juste te dire, j'ai pas fait ci, mais j'ai fait ça.
Et alors, j'ai une question par rapport au rendez-vous, échographie, etc. Ça, tu le dis à ta chef, parce que c'est sur du temps de travail, donc normalement, c'est légalement, tu peux y aller. Comment ça se passe ?
Alors, elle ne me demande pas spécifiquement mes dates de rendez-vous ni mes horaires. Par contre, ce que je fais, c'est que le jour où j'ai rendez-vous, je télétravaille. Et puis, j'essaye de placer mon rendez-vous entre midi et 14h, sur le temps du déjeuner. Après, c'est le temps d'y aller, de revenir. Mais je m'organise comme ça.
Oui, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça.
Non, si un jour, je dois partir plus tôt pour aller à un rendez-vous, il n'y a aucun problème.
Non, mais ce que je retiens là, de nos échanges, c'est que vraiment la transparence et expliquer un peu à ta manager où t'en es, comment tu te sens, c'est la clé en fait pour aussi qu'elle comprenne dans quel état tu es et puis pouvoir travailler entre guillemets le plus longtemps possible pour ne pas être arrêté s'il y a un problème en fait pour trop de fatigue. Parce que comme tu disais, t'es très fatiguée. Est-ce que là, pour cette grossesse, t'as eu des contractions aussi ou là, c'est un peu plus...
C'est différent.
Ah bon ?
Je ressens pas les mêmes choses que la première grossesse, alors c'est encore un peu différent. Mais j'ai l'impression d'avoir moins de grosses contractions. Par contre, dès que je prends la voiture, j'ai ces sentiments de contraction dans le dos. En fait, c'est dans les reins. Alors, c'est pas super évident parfois, mais j'ai ce mal de dos qui revient dès que je fais un peu de voiture ou que je tire un peu trop debout. Voilà. Donc,
Et là-dessus, tu fais des exercices ?
Alors, je pense que je devrais. Je me suis prévue des séances de sage-femme, notamment avec du yoga.
Ouais.
Ça va me faire du bien. Et également, comme pour ma première grossesse, j'avais eu une sorte de sciatique et je n'avais pas pensé à aller voir mon ostéo tout de suite. Donc, j'avais eu mal pendant longtemps. Et ensuite, quand j'ai vu l'ostéo, j'ai été soulagée très vite. Et donc là, il faut que je prévoie de retourner voir mon ostéopathe rapidement, puis après refaire une séance, comme je suis censée accoucher mi-août, je pense, dans l'été, pour revoir aussi le bassin, si tout est bien positionné. Mais je ne vais pas tarder à y aller, parce que je sens que j'ai mal au genou, en plus le poids.
Ta sciatique, tu l'as eu au travail ? Ou non, c'était pendant...
Non, ça a été pour la première grossesse. Oui, ça a tiré un petit peu au début du travail, mais c'était pire. J'étais déjà arrêtée, en fait. Mais là, vraiment, j'avais mal.
Par rapport à ton retour de congé maternité, donc là, tu n'y es pas encore. Normalement, tu t'arrêtes en mai prochain, c'est ça ?
Alors là, je vais m'arrêter normalement mi-juin, par là. Mi-juin, fin juin.
En fonction du pathos.
Bah, si j'ai le pathos, je pense que ce sera mi-fin juin. Je les compte dedans parce que la première grossesse, ils m'ont été mis. Donc, je me dis, on va faire pareil. Voilà. Et puis, normalement, je reviens au travail à la fin de mon congé maternité avec peut-être quelques congés, ce qui m'amènerait à mi-novembre.
Et là, pour celle-ci, tu te projettes dans un allaitement comme le premier ?
Alors, j'aimerais bien que ça marche mieux, que ce soit bien moins douloureux. Je me dis, bon, après avoir, je vais voir comment ça se passe. Pour ma première fille, je m'étais projetée dans un allaitement en me disant, oui, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Les hormones faisant, ça a été très grave que ça ne marche pas. Et il a vraiment fallu que j'insiste et puis finalement, j'ai tiré à l'été. Donc, je me dis là, j'aimerais bien que ça marche, que je me renseigne de plus en plus et puis je vais aller voir quelques professionnels avant aussi. Je pense que c'est assez important pour l'accompagnement de l'allaitement. Puis, on va voir comment ça se passe.
Et là, dans ton entreprise, ils ont, parce que comme tu as changé de site et changé aussi de travail, ils ont une salle d'allaitement ou pas ?
Non, il n'y a pas de salle d'allaitement. Il n'y a pas beaucoup de bureaux disponibles, mais il y en a un, pas très loin du mien. Et j'ai déjà discuté avec ma responsable pour savoir si éventuellement je pourrais avoir les clés. Alors, c'est des bureaux qui sont vitrés, mais sur lesquels on va pouvoir mettre un carton. Et comme ça, ça me permettra en fait d'avoir ma salle de tir à allaitement si vraiment je fais du tir à allaitement.
Ok, donc en gros, j'en ai déjà parlé en amont.
Ouais. Oui, ça c'est discuté, j'ai déjà discuté de mon retour, de comment je voyais mon retour, le tir à allaitement, et puis potentiellement, parce que moi je vais revenir à 100%, et enfin, je dis ça maintenant, peut-être que tout va changer, mais j'aimerais revenir à 100%, mais en posant quelques congés entre mon retour et Noël, tous les mercredis, pour faire comme un 80% le temps de la réadaptation, et ça c'est pareil. Si ce n'est pas gênant au niveau des projets, si je n'annule pas des essais pour poser mon mercredi, il n'y a aucun problème.
Donc, très à l'écoute. Et puis, tu anticipes, en fait.
Mmh.
Tu anticipes. J'essaie. Tout. Oui, bien sûr. On ne peut pas tout anticiper, tu as raison. Mais c'est vrai que tu as les gros jalons dans la maternité, tu les as anticipés.
Oui, voilà. Alors, moi, je pense que je suis assez chanceuse où je suis, parce qu'actuellement, ma responsable est très ouverte d'esprit. Donc, voilà, j'attends ton podcast pour savoir vraiment comment ça se passe et également avoir le point de vue RH. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Merci Anise d'avoir partagé ton expérience de maternité et de grossesse à mon micro. Je suis sûre que ça va permettre de mettre en lumière le fait de se ménager au mieux pour vivre sa maternité et sa grossesse au travail. Et surtout, ce que je retiendrai, c'est toujours le mot d'ordre, en fait. Expliquer, donner son ressenti et être transparent avec son manager pour que tout se passe au mieux et que les aménagements soient faits de manière réfléchie et puis co-construits avec la maman ou la future maman.
Merci Pauline.
Bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Mininou.
Bonjour Pauline.
Pouvais-tu te présenter, dire d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille ?
Alors, je m'appelle Émilie, je suis dans le Vaucluse, je suis ostéopathe depuis 2008 et j'ai mon mari et un grand garçon maintenant de 11 ans.
Alors, aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est comment soulager d'éventuelles douleurs quand on est enceinte et qu'on est à son poste de travail. Et la première question qui vient, c'est quand on travaille en position assise, comment pouvoir se soulager pour adapter ses postures et vivre plus sereinement sa grossesse.
Pour toutes celles qui travaillent assises, et effectivement, c'est un grand sujet parce qu'en fait, il faut vraiment bien régler surtout sa chaise parce que le bureau ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, en espérant qu'on ait des bureaux de taille à peu près standard, l'idéal, c'est de régler sa chaise et de pouvoir déjà positionner l'assise. Donc, pour positionner l'assise, on se met debout face à sa chaise. Et l'assise, le haut de l'assise doit arriver juste en dessous des rotules. Ensuite, on s'assoit sur sa chaise et pour positionner le haut du corps et surtout le fameux clavier d'ordinateur qui est toujours mal positionné en général, l'idéal, c'est de mettre une feuille A4 en format paysage juste devant soi sur son bureau et de positionner le clavier après la feuille A4. Ce qui va en général automatiquement à peu près positionner les mains comme il faut au niveau des coudes qui vont se retrouver à peu près sur le bureau et les poignets qui vont être posés aussi. Il y a l'écran à positionner aussi, c'est pas toujours facile. Alors pour celles qui ont un ordi portable, joker, mais pour celles qui ont un ordinateur classique, l'idéal à ce moment-là, c'est d'avoir le haut de l'écran d'ordinateur qui soit à l'horizontale. Quand on a le regard à l'horizontale, le regard se pose sur le haut de l'écran, ce qui va donner une légère flexion de tête pour suivre sur la page d'écran, donc ça c'est super. Et ensuite, pour l'assise en elle-même, comment positionner correctement ses pieds, etc. Une fois que vous êtes assise, il faut que les hanches soient à 90 degrés et les pieds posés à plat, idéalement sur un marchepied. Alors on n'a pas besoin d'aller forcément acheter un truc, on peut prendre une boîte à chaussures, ça fait tout à fait la bonne taille pour pouvoir positionner ses pieds, et les pieds posés à plat. On évite d'être sur la pointe parce que sinon ça va favoriser la cambrure et donc ça va donner des douleurs en bas du dos. Pour celles qui peuvent amener un peu de matos au boulot, il y a quelque chose qui est pas mal, qui est une bonne alternative, c'est la galette gonflable. C'est une sorte de galette un petit peu épaisse, pleine d'air en fait. On trouve ça dans toutes les grandes surfaces de sport en général. Et ce qui est, moi j'aime bien, c'est que vous allez voir qu'au centre, il y a quand même une petite délimitation et on vient vraiment poser le périnée, en gros entre l'anus et le vagin, pour être clair, vous venez poser cet endroit-là sur cette zone ronde. Comme ça, on est sûr que vous êtes au milieu de la galette. Et du coup, quand vous mettez une galette, il faut bien penser à descendre un tout petit peu l'assise encore. Et ça, ça va permettre de laisser votre bassin mobile et donc de pouvoir encore une fois soulager votre dos un petit peu plus. Et ce qui est encore mieux, mais là, ça demande d'avoir un bureau qui est modulable en hauteur, c'est le ballon. Donc ça, c'est vraiment une super assise et on en reparle d'ailleurs dans les lives. Je crois qu'on est plusieurs à en parler, la kiné aussi. C'est vraiment bien parce que ça permet de garder une mobilité tout au long de toute cette durée de travail. Donc c'est très, très confortable. Une petite astuce aussi pour celles qui se lèvent 10 fois par jour ou 50 fois par jour, c'est de penser à transférer son poids du corps vers l'avant au moment où vous allez vous lever. Votre poids, vous le déportez en fait sur vos pieds. Et une fois qu'il est sur vos pieds, vous allez voir que c'est beaucoup moins lourd pour se soulever.
Et est-ce qu'il y a des exercices à faire ?
Alors, il y a des exercices effectivement à faire. Alors, il faudra aménager en fonction de si vous êtes dans un open space, si vous êtes tranquille dans un bureau, évidemment. Mais déjà, tout simplement, se lever et marcher lentement. Idéalement pieds nus, si on peut. Ça, c'est vraiment super, en déroulant bien le pas du talon vers la pointe pour tout simplement déverrouiller les jambes, bien sûr, mais aussi masser un peu, vous allez voir, on en reparle après, mais masser un petit peu la plante du pied aussi pour aider au retour veineux. Pour celles qui ont le ballon ou la galette, on a un petit plus, c'est que vous allez pouvoir travailler aussi au niveau de votre bassin. Donc, tout simplement, vous restez assise, comme on a dit tout à l'heure, sur votre chaise suffisamment basse, avec vos pieds bien à plat, et vous allez simplement reculer les fesses et vous pencher en avant pour vous allonger sur vos jambes, en fait. Et ça, ça va venir vraiment soulager votre bas du dos. Et quand on peut aussi, ne pas hésiter à s'accroupir à plat, pied à plat, éviter d'avoir de grands talons. Et vous venez vraiment vous accroupir, descendre vos fesses et venir étirer votre dos. Vous pouvez légèrement laisser la tête penchée en avant et faire quelques respirations dans cette position.
Et ça, il faut le faire idéalement plusieurs fois par jour ou une fois quand on ressent le besoin ?
Alors souvent, quand on le ressent, c'est déjà un petit peu tard. Maintenant, je dirais que on a les collègues qui font les pauses cigarettes ou les pauses café. Si on se calque à peu près sur ce rythme-là, c'est souvent pas mal.
Et alors pour les femmes qui, elles, seraient majoritairement en position debout, je sais pas, un travail peut-être en usine ou autre. Quels sont les conseils qu'on peut leur apporter ?
Alors déjà, pour toutes celles qui sont debout, alors il y a celles qui piétinent et puis il y a celles qui marchent beaucoup, ça dépend un peu, donc on va voir, mais en général, le plus important, c'est de penser à déverrouiller les genoux. Dès qu'on est en position statique, on garde pas les genoux complètement tendus, on les relâche légèrement, ce qui va permettre de libérer toute la posture et surtout le fameux bassin. Et pour celles, par exemple, les coiffeuses ou celles qui vont piétiner mais qui ont quand même des moments statiques assez longs, pensez à ce moment-là à légèrement déverrouiller vos genoux et à enrouler votre bassin. Enrouler son bassin, en fait, il faut imaginer que c'est un peu comme un chien qui a très peur et qui va rentrer sa queue. On va avoir vraiment ce bassin qui s'enroule, le pubis qui va remonter légèrement. Ça permet de gainer les abdos, de gainer au niveau des dorsaux. Et donc, vous vous faites comme une ceinture lombaire, mais naturelle. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Ça permet vraiment de soulager et d'anticiper sur les douleurs de dos.
D'accord. Donc, faire ça quand on y pense assez régulièrement pour pour anticiper.
Alors celles qui travaillent debout et qui sont statiques, si elles peuvent adopter cette posture tout le temps, c'est super.
C'est une gymnastique de l'esprit en fait qu'il faut avoir dès le début de la grossesse, oui, pour se soulager tout au long.
Oui, et on va en reparler, mais évidemment éviter les talons hauts, parce que dès qu'on est debout, on cambre beaucoup. Et en fait, tout ce qu'on va dire là et ce qu'on va dire sur plusieurs lives, finalement, c'est vraiment d'étirer ses lombaires et de pas être toujours cambré pour éviter tous ces soucis de dos, en fait. Et même de douleurs de bas-ventre, de douleurs au niveau du pli de laine et tout ça. On va aussi pouvoir se pencher en avant. Alors, vous allez... Pareil, c'est la position du statique debout, avec les genoux déverrouillés, le bassin enroulé. Et on va venir laisser tomber sa tête en avant et venir s'enrouler jusqu'à toucher ses pieds pour celles qui le peuvent. Et dans la position complètement en bas, on bouge plus, on laisse s'étirer tout doucement et on respire profondément. Et on se redresse en se déroulant. Ça soulage énormément. Et pour celles qui peuvent avoir, bah, je pense aux infirmières quand elles passent au cabinet, qu'elles ont 2-3 minutes pour elles, enfin, celles qui peuvent s'isoler un tout petit peu, n'hésitez pas aussi à faire la position du chat. Vous mettez à quatre pattes. Et comme le chat là qui fait le dos rond, vous allez venir vraiment pousser avec votre dos en soufflant, c'est pas mal, et ça fait un petit peu rentrer le ventre, vous allez voir, ça soulage énormément le bas du dos. Et quand on veut quitter la posture, on revient simplement en neutre, surtout on creuse pas les lombaires. Et ça peut se faire aussi à la maison le soir en rentrant pour se soulager un peu de la journée. On va en voir d'autres, des exercices aussi qu'on va faire à la maison, parce qu'on peut pas tout faire au boulot.
Pour les futures mamans qui ont des trajets plutôt long, en voiture ou en transport en commun, quelles sont les petites astuces qu'on peut leur donner?
Alors, pour les transports en commun, souvent l'inconvénient, c'est qu'en fait, ça se voit pas forcément qu'elles sont enceintes au début. Donc, on va pas forcément leur laisser les sièges. Et puis, parfois, ils sont occupés parce qu'il y a d'autres femmes enceintes ou des personnes âgées. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est vraiment d'avoir déjà une main qui puisse s'accrocher quelque part. Donc, ça dépend où, mais le plus fixe possible. Le support doit être fixe, et se mettre dans la position justement où on va légèrement plier les genoux, enrouler le bassin pour venir soulager le dos, et ça va permettre d'amortir chaque petite secousse au niveau des genoux plutôt que dans le dos. Donc ça soulage pas mal aussi. Et ça évite surtout d'avoir des douleurs derrière. Après, pour les transports en voiture individuels, là, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, quand on est conductrice, on n'a pas le choix. Il faut bien rester dans la position pour pouvoir conduire. Il faut essayer, pour celles qui sont, par exemple, les représentantes qui circulent beaucoup, essayer de faire des pauses. L'idéal, ce serait toutes les heures de marcher 2-3 minutes, toutes les 2 heures grand maximum. Maintenant, pour toutes celles qui sont passagères et qui peuvent monter devant, ne pas hésiter à incliner un petit peu le dossier, s'allonger un petit peu et surtout reculer pour pouvoir allonger les jambes. Et pareil, sur les longs trajets, on demande au conducteur de faire quelques pauses pour pouvoir marcher un petit peu, s'accroupir. Les exercices qu'on vient de faire là, elles peuvent les faire dans les temps de pause des trajets.
Alors souvent, quand on est enceinte, on a aussi une problématique qui est les jambes lourdes. Qu'est-ce qui peut les soulager? Parce que c'est vrai que ça soit en position debout, quand on piétine toute la journée, en voiture, on l'a vu, ou même en position assise, on a cette sensation, et notamment le soir, de jambes très lourdes, qui est assez désagréable. Est-ce que ça peut être soulagé?
Alors, ça peut être soulagé. Déjà, on va revenir à celles qui sont assises toute la journée. Bah, la position dont on a parlé, ça va énormément aider. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un petit détail que j'ai oublié, c'est qu'il faut bien penser, quand on est assis sur sa chaise, à ce que les genoux ne touchent pas l'assise pour que l'arrière du genou soit libre et que la circulation soit meilleure. Et surtout, ça c'est un petit défaut qu'on a toutes, éviter de croiser les jambes, parce que ça va pas arranger la circulation. Ensuite, quand on le peut, l'idéal c'est de marcher pieds nus, comme on a dit tout à l'heure, et encore mieux si jamais on se trouve un petit bout de verdure, parfois dans en entreprise il y a un petit jardin ou un jardin public, si on peut simplement marcher un petit peu pieds nus dans l'herbe, ça va améliorer encore plus la circulation. Après, pour rester au travail, alors il y a souvent, on leur conseille de mettre des bas de contention. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, le souci, c'est on oublie d'expliquer qu'il faut les mettre avant de se lever le matin. Parce que sinon, quand vous vous levez, bah, c'est la gravité, hein. Le sang, il va descendre. Et donc, le souci, il est déjà en place. Et presque, on va l'aggraver en mettant le bas. Donc, pensez à mettre les bas le matin avant de vous réveiller. Avant de vous lever, pardon. Il y a des choses, mais cette fois, ce sera plus facile à mettre en place à la maison. C'est surtout pour celles qui ont beaucoup de jambes lourdes et même des hémorroïdes. Ne pas hésiter en fait à faire ce qu'on appelait à l'époque un bain de siège, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la douche ou dans la baignoire et vous allez passer le jet d'eau froide, le plus froid possible que vous pouvez supporter, au-delà, maximum 5 minutes, on va dire, sur le périnée. Mais en essayant que vos pieds, que le reste du corps ne soit pas au contact de l'eau froide. C'est pas, c'est tout, des fois, c'est un peu sport. Mais dans l'idée, le mieux, c'est de faire comme ça. Et ça, ça permet de relancer énormément la circulation, à la fois pour les jambes, mais ça soulage, même si les hémorroïdes sont pas liées qu'à ça, mais ça soulage aussi les hémorroïdes. Et dans cette idée-là, pour celles qui souffrent vraiment et qui sont soulagées par ces douches, mais pour qui ça suffit pas, vous avez des poches de gel qui existent, qui sont spécifiques pour le périnée, qui du coup sont beaucoup plus confortables que ce qu'on peut trouver dans certains magasins de sport où elles vont être trop volumineuses, et qui permettent d'énormément soulager aussi. Vous les mettez dans un linge pour éviter la brûlure du froid, et vous les mettez 2 à 3 fois 20 minutes dans la journée.
Dans sa culotte directement ?
Oui, mais enveloppée dans un linge. Sinon, le froid brûle hein, au contact. Et ça, c'est un conseil aussi qu'on pourra garder pour après l'accouchement. Retour à la maison, c'est très confortable aussi. Ça évite les œdèmes.
Et donc, par rapport aux habits, on parlait donc des vêtements spécifiquement. On parlait aussi des culottes. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cela ?
Oui, au niveau des sous-vêtements, effectivement, des culottes, les culottes en coton, et tous les sous-vêtements en coton sont à privilégier parce qu'on sait que pendant la grossesse, on va avoir une flore vaginale qui est quand même un petit peu perturbée. Et du coup, on a plus de tendance à avoir des mycoses, voire même des infections urinaires. Et tous les sous-vêtements en coton permettent d'éviter en fait de créer un problème supplémentaire. Donc, c'est plutôt bien d'avoir des culottes en coton.
Par rapport à ça, souvent quand on va au travail, on a des sacs, alors des sacs à main qu'on a à l'épaule majoritairement, et parfois on a aussi un PC à transporter, un ordinateur portable. Quel sac tu nous conseillerais pour ne pas avoir de déséquilibre, on va dire, et d'avoir une bonne posture au niveau du dos et même de la démarche avec tous les sacs et sacoches que l'on doit transporter?
Oui, je pensais aussi à toutes les représentantes, les infirmières, toutes celles qui vont devoir se déplacer énormément avec ces sacs qu'on met toujours souvent en bandoulière ou sur une épaule. Donc, ça met beaucoup de poids d'un même côté. Et donc, forcément, on s'incline pour pouvoir porter ce poids. Donc là, ce qui est bien, en fait, on n'a rien inventé, hein, c'est le sac à dos. Un sac à dos qui est bien réglé, qui est bien porté sur les deux épaules, va permettre de mieux répartir, on va mieux répartir son poids. Et du coup, ça va permettre d'avoir une posture qui va rester plus centrée sur son bassin et sur les deux jambes, et donc d'éviter d'avoir des douleurs de dos, voire même de bas-ventre et de plis de laine.
Bonne astuce, parce que c'est vrai que le sac à dos, on n'y pense pas toujours, et souvent on a des sacs en bandoulière, comme tu as dit, et c'est pas adéquat pour ce moment, donc c'est peut-être le moment de changer de sac. Et souvent, quand on part en déplacement ou qu'on soit au bureau, on parlait donc des collègues qui vont faire les pauses. Quand nous, on fait nos exercices pendant les pauses ou avec eux quand ils sont en pause, quelles sont les choses qu'il ne faut pas que nous aussi, on oublie par rapport à notre grossesse ?
La grossesse, ce qui est très important, mais c'est important pour les collègues de travail aussi, mais encore plus enceinte, c'est de boire énormément dans la journée. Déjà, rien que parce que bébé, il est en train de nager dans une piscine et qu'il faut changer l'eau de la piscine de temps en temps. Et ensuite, parce que du coup, on a besoin énormément d'eau, en fait, dans la journée. Donc, il faut boire environ 2 litres d'eau parce que ça va permettre d'améliorer aussi, au-delà de l'eau de bébé, ça va nous permettre d'améliorer le transit. Encore une fois, donc quand on peut lutter contre la constipation, c'est quand même pas mal. Et aussi, ça va prévenir les infections urinaires, parce que au moins on s'hydrate, au plus les urines sont concentrées et au plus ça peut provoquer des développements de germes. Donc, bien s'hydrater.
Donc, à chaque fois que les collègues vont en pause, on prend sa gourde d'eau et on boit.
Exactement. On n'a pas besoin de faire une pause pour boire.
Donc, toujours garder sa gourde d'eau à côté de son ordinateur ou à portée de main si on voyage et on fait beaucoup de déplacements.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je t'en remercie grandement. J'espère que ces témoignages te seront inspirants et te donneront des pistes pour vivre sereinement ta grossesse dans ton entreprise. Le mois prochain, nous découvrirons d'autres récits enrichissants. Bonne grossesse et à bientôt !